Ton père a enquêté sur moi, Charlie ? Je parie que oui. À sa place, je sais que c'est ce que j'aurais fait. Mais compte tenu de son boulot, je parie qu'il dispose de tous les moyens nécessaires pour enquêter. Dans ce cas, il a découvert qu'un certain Adrian Bodic, mon père, a-t-il pensé, ou plus probablement mon grand-père, a acheté en 1920 le terrain sur lequel est construite cette maison. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est moi. Je suis né Adrian Howard Bodic en 1894. Ce qui me fait environ 120 ans. La maison a été achevée en 1922. Ou peut-être 1923, je ne sais plus très bien. Et le cabanon, n'oublions pas, le cabanon a été construit avant la maison, de mes propres mains. Le Howard Bodic que tu connais est un homme casanier qui aime rester dans son coin avec son chien. N'oublions pas Radar non plus. Mais Adrian Bodic, mon père supposé, était un sacré vagabond. Le 1 Sycamore Street était sa base, on pourrait dire, mais il était souvent absent. Chaque fois que je revenais en ville, je découvrais les changements, comme sur une série de photos instantanées. Je trouvais ça fascinant, mais un peu déprimant aussi. J'avais l'impression qu'un tas de choses allaient dans le mauvais sens en Amérique, et ça continue, mais la question n'est pas là, je suppose. La dernière fois que je suis revenu en tant qu'Adrian Bodic, c'est en 1969. En 1972, à 78 ans, j'ai engagé un certain John McKean pour garder la maison. Un vieux bonhomme formidable, digne de confiance. Tu trouveras son nom dans les archives de la ville si ça t'intéresse. Et j'ai entrepris mon dernier voyage en Égypte prétendument. En vérité, ce n'est pas là-bas que je suis allé, Charlie. 3 ans plus tard, en 1975 donc, je suis revenu dans la peau de mon fils, Howard Bodic, la quarantaine. Howard avait soi-disant passé la majeure partie de sa vie à l'étranger jusqu'à maintenant, avec sa mère, brouillé avec son père. J'ai toujours bien aimé ce détail. La brouille fait plus réel que le divorce ou la mort, d'une certaine manière. Après le prétendu décès d'Adrian Bodic en Égypte, je me suis installé dans la demeure familiale et j'ai décidé d'y rester. Le titre de propriété ne faisait aucun doute. Je m'étais légué la maison à moi-même. Gonflé, non ? Avant que je te raconte la suite, je veux que tu arrêtes l'enregistrement et que tu ailles dans le cabanon. Tu peux l'ouvrir, tu as mes clés. Du moins, j'espère. N'aie pas peur. J'ai remis les planches et je les ai bloquées avec les parpaings. Ah, la vache, il pèse une tonne. Prends quand même mon revolver, si tu veux. Et la lampe électrique aussi. Celle qui est dans le placard de la cuisine. Il y a de la lumière dans le cabanon, mais tu auras besoin de la lampe électrique. Tu comprendras pourquoi. Vois tout ce qu'il y a à voir. Celui que tu as entendu la première fois aura quasiment disparu maintenant, peut-être même complètement. Mais les restes de celui que j'ai tué seront toujours là. La majeure partie, en tout cas. Quand tu auras zioté, reviens écouter la suite de l'histoire. Allez, vas-y. Fais-moi confiance, Charlie. Je compte sur toi.
8. J'appuyais sur stop et restais assis un moment sans bouger. Il était fou, forcément, même s'il ne m'avait jamais paru fou. Jusqu'à la fin, il était lucide. Quand il m'avait appelé pour m'annoncer qu'il faisait une crise cardiaque, il y avait bel et bien, ou il y avait eu, quelque chose dans ce cabanon, c'était indéniable. Je l'avais entendu, Radar l'avait entendu, et M. Bodic était allé l'abattre. Mais 120 ans. Personne, ou presque, ne vivait aussi longtemps. Un être humain sur 10 millions, peut-être. Et personne ne réapparaissait à 40 ans en se faisant passer pour son fils. Ce genre de choses n'arrivait que dans les fictions. Des contes de fées, dis-je. Et j'étais tellement à cran, flippé, que ma propre voix me fit sursauter. Fais-moi confiance, Charlie, je compte sur toi. Je me levai en ayant l'impression d'évoluer hors de mon corps. Je ne sais comment décrire autrement cette sensation. Je montai à l'étage, ouvris le coffre et pris le calibre 45 de M. Bauditch. Il était toujours dans son étui, et l'étui accroché à la ceinture ornée de concho. Je l'attachai autour de ma taille et nouai les cordons de l'étui autour de ma cuisse. Mon moi intérieur se trouvait idiot, un gamin qui joue au cow-boy. Mon moi extérieur se réjouissait de sentir le poids du revolver et de le savoir chargé. La lampe électrique était un grand modèle de bonne qualité qui contenait 6 piles d'un volt 5. Je vérifiais qu'elle fonctionnait, ressortis de la maison et traversais le jardin jusqu'au cabanon. Va falloir que je me remette à tondre bientôt. Mon cœur battait fort et vite. Ce n'était pas une journée particulièrement chaude, pourtant je sentais la sueur couler sur mes joues et dans mon cou. En sortant le trousseau de clés de ma poche, je le laissai tomber. En me penchant pour le ramasser, je me cognai la tête contre la porte du cabanon. Je passai les clés en revue. L'une d'elles avait une tête ronde sur laquelle était gravé le mot « Studebaker » en italique. Celle qui ouvrait les portes de la maison, devant et derrière, je les connaissais. Une autre, plus petite, ouvrait peut-être un casier quelconque ou même un coffre à la banque. Et puis, il y avait une clé Yale, pour le gros cadenas de la même marque qui fermait le cabanon. Je l'introduisis dans le cadenas et frappai à la porte avec mon poing. « Hé !» criai-je, pas trop fort. Je ne voulais pas que Madame Richland m'entende. « Si vous êtes là-dedans, reculez ! Je suis armé !» Rien. Je restais planté là malgré tout, ma lampe à la main, paralysé par la peur. La peur de quoi? De l'inconnu, la chose la plus effrayante qui soit. J'imaginais M. Bauditch disant « Arrête de tergiverser, Charlie !» Je m'obligeais à tourner la clé. L'anneau du cadenas sauta. Je le retirai, fis pivoter le moraillon et posai le cadenas dessus, à cheval. Un souffle de vent ébouriffa mes cheveux. Je poussai la porte. Les gonds grincèrent. Il faisait noir à l'intérieur. La lumière du monde extérieur semblait trépasser subitement en franchissant le seuil. Sur l'enregistrement, M. Bauditch parlait d'un éclairage, même si aucun fil électrique ne courait jusqu'au cabanon. Je braquai la torche sur le côté droit de la porte et découvris un interrupteur. Je l'actionnai et aussitôt, deux lampes alimentées par batterie, fixées en hauteur de part et d'autre de la porte, s'allumèrent. Elles ressemblaient à ces lampes de secours très utiles quand il y a une coupure de courant dans une école ou un cinéma, et elles produisaient un faible bourdonnement. Le sol était fait de lattes de bois. Dans le coin gauche le plus éloigné, 3 planches étaient collées les unes aux autres, des parpaings maintenaient les extrémités. Je pointai le faisceau de la lampe vers la droite et découvris une chose si horrible et inattendue que, tout d'abord, je ne compris pas ce que je voyais. J'avais envie de prendre mes jambes à mon cou, mais impossible de bouger. Une partie de moi-même pensait, si tant est que j'ai été capable de penser durant ces premières secondes, qu'il s'agissait d'une farce macabre, d'une créature de film d'horreur en latex et fil de fer. J'apercevais un unique rond de lumière, de la taille d'une pièce de monnaie, là où la balle avait traversé le mur après avoir traversé la chose que je contemplais. C'était une sorte d'insecte, mais presque aussi gros qu'un chat adulte. Il était mort, couché sur le dos. Ses pattes dressées étaient repliées au milieu et hérissées de poils drus. Un œil noir me regardait sans me voir. Une des balles tirées par M. Bauditch l'avait atteint à l'abdomen et ses viscères pâles gisaient autour de son ventre ouvert, semblable à un pudding écœurant. Une fine brume s'échappait de ses entrailles et lorsqu'un nouveau souffle d'air me frôla, j'étais toujours figé sur le seuil, la main soudée à l'interrupteur. La même brume s'éleva de la tête de la créature et des espaces entre les plaques de sa carapace. L'œil aveugle s'affaissa, laissant à la place une orbite vide qui semblait me foudroyer. Je poussai un petit cri, persuadé que la chose ressuscitait, Mais non, l'insecte était aussi mort qu'on peut l'être, en décomposition. L'air frais accélérait le processus. Je me forçais à entrer dans le cabanon, la lampe torche dans la main gauche braquée sur la carcasse de l'insecte mort. Je tenais le revolver dans la main droite. Je ne me souvenais pas de l'avoir dégainé.
« Quand tu auras jeté... »
Je suppose que ça voulait dire « quand j'aurais jeté un coup d'œil ». Je n'avais pas envie de m'éloigner de la porte, mais là encore, je me fis violence. Mon moi extérieur, du moins, car cela voudrait dire que j'avais jeté. Mon moi intérieur, lui, bafouillait de terreur, de stupéfaction et d'incrédulité. Je m'approchais des planches sur lesquelles étaient posés les parpaings. En chemin, mon pied heurta quelque chose, et quand je pointais le faisceau de la lampe vers le sol, je poussai un cri de dégoût. C'était une patte d'insecte, ou ce qu'il en restait. Je la reconnaissais au poil et à la pliure de l'articulation. Je ne l'avais pas heurtée brutalement, et je portais des baskets. Pourtant, elle se brisa en deux. Je devinais qu'elle provenait de l'insecte que j'avais entendu précédemment. Il était mort ici, et c'était tout ce qu'il en restait.
« Tiens, Charlie, prends une patte !»
J'entendais et voyais mon père me tendre un pilon de poulet frit.
« C'est le meilleur du pays !»
Pris d'un haut le cœur, je plaquai ma main sur ma bouche jusqu'à ce que l'envie de vomir reflue. Si l'insecte mort avait empesté, je crois que je n'aurais pas pu me retenir. Fort heureusement, il ne dégageait aucune odeur, ou presque, sans doute parce que la décomposition était déjà très avancée. Les planches posées côte à côte couvraient un trou dans le sol de presque 2 mètres de diamètre. Je crus tout d'abord qu'il s'agissait d'un puits datant de l'époque où il n'y avait pas l'eau courante, mais en pointant la lumière entre 2 planches, j'entreaperçus un petit escalier de pierre qui descendait en colimaçon. Des bruits de pattes et de sifflements montaient des profondeurs obscures. Quelques mouvements entrevus me pétrifièrent. D'autres insectes, bien vivants ceux-là. Ils fuyaient devant ma lumière et soudain je compris, des cafards. Certes, c'était le gros modèle, mais il faisait ce que font tous les cafards quand vous les éclairez, il détalait. Monsieur Bodditch avait couvert ce trou qui menait Dieu sait où, ou à quoi, mais il avait bâclé le travail, ce qui ne lui ressemblait pas, ou bien les insectes avaient réussi à déplacer une ou plusieurs planches sur une très longue période, depuis 1920 par exemple. Mon père aurait ri, mais mon père n'avait jamais vu un cafard gros comme un chat. Je posai un genou à terre et introduisis le faisceau de la lampe entre les planches. S'il y avait d'autres cafards géants, ils avaient fichu le camp. Je ne voyais plus que ces marches de pierre en spirale qui s'enfonçaient sous terre encore et encore à l'infini. Une pensée me vint alors, bizarre tout d'abord, puis beaucoup moins. J'avais devant moi l'histoire du haricot magique de Jack, revue par Monsieur Bodditch. Il descendait au lieu de monter, mais à l'autre extrémité, il y avait de l'or. J'en étais convaincu. 9. Je reculais à pas lents, éteignis les lampes alimentées par batterie et braquai une dernière fois le faisceau de ma lampe sur cette chose épouvantable appuyée contre le mur. Une vapeur plus épaisse s'en échappait maintenant, ainsi qu'une odeur semblable à de la menthe aigre, effet dû à l'air frais. Je claquai la porte, refermai le cadenas d'un coup sec et regagnai la maison. Je rangeai la lampe dans le placard et le revolver dans le coffre. Je regardai le seau rempli de pépites, sans éprouver l'envie d'y enfouir les mains, pas ce jour-là. Et si, en plongeant jusqu'au fond, je sentais un morceau de pâte velue? Au moment où j'atteignais l'escalier, mes jambes se dérobèrent et je dus agripper le poteau de la rampe pour éviter une vilaine chute. Je m'assis sur la marche du haut, secoué de tremblements. Enfin, après 1 ou 2 minutes, je parvins à me ressaisir et à descendre en me tenant à la rampe dans une posture qui me rappelait M. Bodditch. Je me laissai tomber sur la chaise devant la table de la cuisine et regardai le magnétophone. Une partie de moi-même avait envie d'arracher la cassette, de dérouler le long ruban marron et de le balancer à la poubelle. Mais je ne le fis pas. Je ne pouvais pas.
Fais-moi confiance, Charlie. Je compte sur toi.
J'enfonçai la touche play et l'espace d'un instant. Ce fut comme si M. Bodditch se trouvait dans la cuisine avec moi. Voyant combien j'étais terrorisé, abasourdi aussi, il voulait me réconforter. m'empêchait de penser à l'œil énorme de l'insecte, enfoncé dans son orbite vide qui me foudroyait. Et il y parvint, plus ou moins.